Vous êtes à l'écoute de l'émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert et nous regardons ensemble le premier texte de la liturgie de dimanche prochain, qui est au chapitre 9 du livre de la Genèse. Donc, il s'agit bien du déluge. Francine, peut-être avant qu'on continue, un petit rappel vite sur le genre littéraire. Ce récit du déluge n'a pas à être pris à la lettre.
Non, bien sûr, pas plus qu'au minimum les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse qui, on l'a dit, ne racontent pas au sens strict. Le récit du déluge n'est pas là pour dire au lecteur que jadis il y a eu un déluge. Mais c'est dans toutes les cultures anciennes, les récits de déluge, hein, on en connaît partout, aussi bien en Extrême-Orient, en Polynésie, aux Indes, qu'en Amérique centrale, voyez. Alors, la réflexion biblique n'est pas originale en disant qu'il y a eu un déluge universel. Elle doit, comme les littératures anciennes le font, se demander pourquoi il y en a eu un déluge et qu'est-ce que les dieux ont pour la Bible, qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans. Il ne faut pas s'étonner de ça, Claude, de la présence des récits de déluge. Hein. Beaucoup de grandes civilisations se sont développées sur les bords des grands cours d'eau, souvent près de l'embouchure, et donc près de la mer.
Donc, souvent, les rivières ont débordé, oui. Comme encore aujourd'hui, oui. Nos rivières et nos lacs débordent.
Bien sûr, il y a eu des tsunamis aussi. Ouais. C'est certain qu'il y a eu des inondations très graves à diverses époques. Disons, depuis que l'humanité a la faculté de se souvenir d'événements majeurs, c'est normal que ces inondations qui sont destructrices aient laissé des traces profondes dans la mémoire collective et que ce soit devenu finalement des récits de type mythique où on présente des catastrophes universelles, vous voyez.
C'est sûr, par exemple, ce qui s'est passé en Louisiane, pour les gens qui ont vécu ça, c'est synonyme d'une catastrophe à dimension universelle.
Oui.
Celui qui vit ça, il ne peut pas dire, nous, c'est effrayant, mais à quelques kilomètres plus loin, ils ne sont pas touchés. Tu sais, c'était envahi. Là. Alors, comme vous dites, ce sont des traumatismes qui restent dans l'inconscient collectif des peuples, finalement.
Ça laisse des traces et oui, ça donne naissance à des récits, d'autant plus que les récits anciens doivent non seulement transmettre la mémoire des catastrophes, mais aussi essayer de négocier la crainte des catastrophes naturelles comme celle-là, puisque les humains sont fragiles devant ces catastrophes-là. Alors, c'est ça la philosophie ancienne, c'est essayer de voir comment on apprivoise le fait que des groupes humains peuvent être détruits comme ça. Est-ce que c'est parce qu'on est trop fragile? Est-ce que c'est la fatalité? Est-ce que c'est des menaces que les dieux font peser sur l'humanité? Oui, c'est ça la réflexion philosophique de ces cultures de l'Antiquité.
Hein. Et est-ce qu'on est voué à... Est-ce qu'un jour, on sera entièrement détruit?
Exactement. Et comment conjurer les forces mauvaises qui nous menacent? Car tous les récits anciens de déluge présentent les choses sous l'angle d'une décision de la divinité ou des divinités. Hein. C'est comme la Bible là-dessus. Dans le récit de Babylone, par exemple, le récit du déluge qui est à Babylone, disons vers 1700-1600 avant Jésus-Christ, ce qui provoque une série de fléaux, dont le déluge, c'est que les dieux sont fatigués d'entendre les tambours des hommes, vous voyez.
Les tambours de guerre, vous voulez dire.
Bien non, malheureusement, c'est plus ironique que ça, c'est les tambours du culte.
Ah bon?
Alors, ces pauvres hommes qui se désarment pour rendre un culte.
Ah, puis les dieux sont fatigués, là. C'est assez, là.
Le culte. Et voilà, c'est pas drôle quand on y pense. Mm-hmm. Mais donc, c'est intéressant.
C'est une lecture. Oui. C'est une lecture, finalement.
C'est un essai d'explication de la part de quelqu'un qui probablement trouve que le culte n'est pas si génial, hein, puisque en Babylonie aussi, c'est produit par des hommes qui réfléchissent sur l'expérience humaine et les rapports entre Dieu et l'humanité. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant de le signaler aussi parce que les récits de Babylone vont être connus par le peuple de la Bible. Et on va retrouver d'ailleurs des images et des symboles communs. Alors, c'est intéressant de voir que la Bible n'est pas originale dans le fait d'avoir un déluge, mais dans la philosophie, c'est-à-dire dans la réflexion théologique qu'elle fait sur les causes du déluge et donc la place de Dieu dans cet événement-là. La Bible doit rendre compte de sa foi en un certain Dieu, donc en une certaine manière de voir Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on est obligé, si on veut mieux comprendre notre récit d'aujourd'hui, qui est au chapitre 9 du livre de la Genèse, on est obligé de remonter au chapitre 6 de la Genèse pour voir qu'est-ce que le narrateur biblique propose comme cause du déluge. Et on voit qu'il en parle du point de vue de Dieu, et ce qu'il dit, c'est que Dieu est attristé de voir que le mal ronge l'humanité. Hein, il regrette d'avoir créé un monde qui est en train de tourner mal. Il peut dire dans les mots du texte, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande. Hein. Et c'est méchanceté dans un sens large, là, pas juste immoralité, mais ce qui est méchant, mauvais, ce qui me fait du mal aussi. C'est le même mot là, en hébreu. La terre, elle est corrompue, selon la Tob, ou pervertie, selon la Bible de Jérusalem, devant Dieu, et elle s'est remplie de violence, la terre. Et,
ça, c'est au chapitre 6, verset 11.
Oui, exactement. Mm-hmm. Et le verbe que l'on traduit par corrompre ou par pervertir a un sens beaucoup plus large. Pour nous, corruption, perversion, c'est encore là moral. Mais c'est un verbe qui peut aussi bien être traduit ailleurs par pourrir, détériorer, détruire. Vous voyez, c'est en train de se défaire tout ça. C'est en train de pourrir sur place. Ça peut aussi bien être physique hein, que moral. C'est le même verbe détruire qu'on a dans la phrase suivante. Je vais la détruire. De sorte que si vous nous la lisez, cette phrase, en mettant toujours le verbe détruire là où on a toujours le même verbe, on voit que ça sonne autrement.
Donc, c'est au chapitre 6, versets 11 à 13, « La terre se détruisait devant Dieu. Elle s'était remplie de violence. Dieu regarda la terre et la vit se détruire, car toute chair avait détruit son chemin sur la terre. Et Dieu dit, « Je vais la détruire. »
Vous voyez, c'est toujours le même verbe.
Même verbe. Hein? Évidemment, en tout cas, quand on traduit en français, c'est sûr qu'en langue française, on aime bien varier les termes. Mais quand on va au texte original, c'est vraiment, c'est le même verbe qui revient.
Et la traduction, enfin, ne devrait pas être un exercice de littérature, mais un exercice de traduction, à mon avis. Ouais. C'est vrai aussi que le verbe détruire peut vouloir dire, donc, être corrompu, pourrir. Mais ce que j'aime bien dans le fait de montrer que c'est le même verbe, c'est que ça élargit. Et ça nous empêche de comprendre simplement « Ah, la terre se conduit mal, là, pour Dieu, les humains n'agissent pas bien, donc il n'est pas content. » C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'il constate, c'est que les vivants sont en train de détruire leur propre chemin de vie. Il y a une entreprise qui les conduit à leur propre perte, vous voyez. Donc, dans ce récit, on voit que Dieu est présenté comme profondément déçu et affligé de constater que la création est en train de déraper vers la violence. Ça reflète une position théologique, hein, je le rappelle. C'est la réflexion d'un groupe à partir d'une expérience spirituelle qui, chez les auteurs bibliques, est considérée comme une inspiration, voire même une révélation, c'est-à-dire que Dieu se révèle à l'intérieur de leur expérience spirituelle. En tout cas, pour les croyants, c'est ainsi qu'on le reçoit. Alors, ça devient intéressant de se demander quelle est la théologie que cet auteur exprime dans son texte. Bien, à partir de son expérience de Dieu, il porte, on le voit, un jugement très sévère sur la société qu'il connaît, qui est un monde où la violence est normale. C'est un monde où la loi du plus fort, c'est la bonne et tout le monde semble l'accepter. Alors, sa théologie exprime un autre système de valeurs puisque Dieu réagit devant cette violence en ne la trouvant pas normale, si peu normale qu'il considère qu'on est en train de s'auto-détruire. Et donc, c'est comme si on est en train de dévier profondément du projet initial de la création. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a là la prise de position d'un auteur. C'est une position qui est très différente des récits du déluge dans les civilisations voisines. La décision de Dieu ici, elle n'est pas liée du tout à une sorte de fatalité ou un caprice des dieux. On peut se rappeler que dans la majorité des sociétés de l'Antiquité, les dieux sont les forces de la nature divinisées, donc ils nous tombent dessus à tout moment, on ne sait pas trop pourquoi. L'auteur ne se positionne pas du tout comme ça. Sa théologie, c'est un dieu qui prend une décision liée à un certain mode de vie qui serait bon pour l'humanité, et l'humanité sort de ce mode de vie et est en train de s'auto-détruire.
Une déception de Dieu.
Oui, une déception de Dieu, disons-le comme ça.
J'ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel. J'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle, toute bleue. Bleue pour pas qu'on la confonde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. J'avais mis des gens de passage et j'avais mélangé les couleurs. Je leur avais appris le partage, ils avaient répété par cœur, toujours, tous toujours dans la même ronde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Hommes pour chaque fille une colline de fleurs. Et puis j'ai planté des arbres à pommes où tout le monde a mordu de bon cœur. Et partout, partout des rivières profondes. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. La ville s'arrête, il paraît que les fleuves ont grossi. Les enfants s'approchent, s'inquiètent, demandent pourquoi tous ces bruits. Sans doute Dieu et sa barbe blonde. Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est. Sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est.